Chapitre 5. Dieu poursuit sa famille. Tel que j'ai noté dans le chapitre précédent, la venue du Saint-Esprit était l'accomplissement de la nouvelle alliance par Jérémie et Ézéchiel. Jérémie 31, versets 31 à 34. Ézéchiel 36, versets 22 à 28. Le ministère de l'Esprit dans chaque croyant rend la victoire sur la dépravation possible. Considérez-le comme si c'était une claque au visage des fils de Dieu déchus. Mais c'est une attaque encore plus directe contre un autre groupe de méchants surnaturels. L'arrivée de l'Esprit a lancé une campagne d'infiltration contre les fils de Dieu à qui Dieu avait assigné les nations qu'il avait divorcées. Deutéronome 32, verset 8. Les êtres surnaturels qui ont renoncé à servir Dieu et se sont corrompus, abusant des peuples sous leur domination. Psaume 82. Jésus savait tout cela. Cela nous échappe habituellement dans notre lecture des livres du Nouveau Testament qui suivent la résurrection, c'est-à-dire le livre des Actes jusqu'à la fin, le livre de l'Apocalypse. Le commencement de la fin. Le départ de Jésus a initié la venue de l'Esprit. Jean 14, verset 26. Jean 15, verset 26. Jean 16, verset 7. Luc, chapitre 24, verset 49. Pendant que Jésus, le ressuscité, était encore sur terre, il a dit à ses disciples ce qui suivrait bientôt. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, versets 4 à 5, et verset 8. Si vous continuez à lire le livre des Actes, il n'est pas long de se rendre compte ce que Jésus avait prédit. Une fois qu'il a quitté, acte 1, versets 9 à 11, l'Esprit arrive dans, littéralement, un brasier de gloire dans le chapitre suivant. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, versets 1 à 4. Le reste de l'histoire nous raconte que le Saint-Esprit a permis aux disciples de Jésus de parler dans toutes sortes de langues. Ils partageaient l'histoire de Jésus, sa mort et sa résurrection, aux Juifs partout dans le monde. Juifs était le nom donné aux Israélites dans les terres étrangères qui avaient été dispersées partout dans le monde durant l'exil, dans le temps de l'Ancien Testament. Les Juifs qui entendaient les disciples de Jésus leur prêcher dans leur langue venaient de la descendance des Israélites de l'Ancien Testament. Ils étaient venus à Jérusalem pour célébrer l'une des fêtes sacrées dans le vieux calendrier religieux israélite. Les gens à Jérusalem qui savaient qui étaient les disciples de Jésus pensaient que tout cet événement public était une folie ivrogne. Il était tout simplement impossible que tout d'un coup ces hommes puissent parler en d'autres langues. Mais alors l'apôtre Pierre leur a démontré. Honnêtement, il en a fait plus que ça. Il leur en a fait tout un exposé. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, versets 4 à 19, versets 21 à 24 et versets 33. Pierre leur racontait que ce qu'ils voyaient avec leurs propres yeux et ce qu'ils écoutaient avec leurs propres oreilles était un miracle causé par l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu. Il leur dit que Dieu avait envoyé son Saint-Esprit pour leur dire ce qui était arrivé. Le Messie était venu. Il avait été tué et il avait ressuscité des morts. Et il avait besoin de croire. Le résultat de l'exposition de Pierre était impressionnant. 3000 personnes invoquèrent le nom du Seigneur pour le pardon et ils furent sauvés. Acte 2, verset 41. C'est habituellement l'endroit dans l'histoire où le prédicateur fait son avance ou son recul pour parler de la croix. Tout ceci est bien, car la croix et la résurrection nous conduit à ce moment. Mais encore, il nous manque quelque chose de très signifiant à propos de l'histoire. Infiltration surnaturelle. Rappelez-vous ce qui est arrivé dans Acte 2 à propos de la venue de l'Esprit. L'arrivée de l'Esprit était un élément crucial de la Nouvelle Alliance, une nouvelle collection de promesses que Dieu donnait à l'humanité. Plusieurs chrétiens ne réalisent pas que ceci aussi signifiait que Dieu annonçait une guerre spirituelle pour réclamer non seulement les Juifs qui avaient rejeté Jésus, mais aussi les païens, les gens des nations qu'il avait rejetés à la tour de Babel. Dieu était à la poursuite de sa famille, et il n'était pas important où ses enfants vivaient. Il les voulait et il les trouverait. Le passage que nous venons de lire dans Acte 2 nous dit que l'Esprit est venu avec un vent et du feu. Acte 2, versets 2 et 3. Le feu et la fumée étaient des éléments communs dans les visions de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Exode 13, versets 21 à 22. Ézéchiel 1, verset 4, verset 13 et verset 27. Des fois, Dieu venait dans un vent impétueux. Ésaïe 6, verset 4 et verset 6. Ézéchiel 1, verset 4. Job 38, verset 1, et Job 40, verset 6. Les Juifs qui avaient entendu le message de Pierre et qui avaient vu la venue de l'Esprit avec leurs propres yeux savaient que le jour du salut était venu. Pensez à ce qui est arrivé dans cette scène. 3000 Juifs qui vivaient dans les nations étrangères où leurs ancêtres avaient été dispersés étaient venus à Jérusalem pour une journée de fête religieuse. Ils virent la venue de l'Esprit et ils écoutèrent au sujet de Jésus le Messie et ce qu'il avait fait. Ils ont cru Jésus. Ils sont devenus chrétiens, ses disciples. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait par la suite? Ils sont retournés à la maison. Pourquoi est-ce si important? Parce que maintenant, les nations perdues et divorcées avaient 3000 évangélistes plantés en elles. Ils étaient comme des agents secrets, incrustés dans un territoire hostile, contrôlé par d'autres dieux. Ils allaient être le moyen initial de Dieu afin de multiplier la grandeur de sa famille humaine. Ils étaient la première vague. Leur mission? La même que Jésus avait donnée à ses disciples. La mission confiée aux disciples. Les chrétiens connaissent bien les versets. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. Mais encore, il manque quelque chose. Cela est bien, la mission confiée aux disciples. Mais j'ai sauté le verset 18, celui qui est généralement sauté quand les gens parlent de notre mission d'évangéliser. Voici l'énoncé de Jésus au complet avec quelque chose d'important en gras. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 18 à 20. Avez-vous remarqué cela? Jésus possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La partie du pouvoir dans le ciel est facile à comprendre. Jésus a fait son ascension dans le ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Hébreux 12, verset 2. Mais qu'est-ce que la partie « sur la terre » signifie? Il est facile de ne pas le comprendre. Son ascension, qui naturellement devait suivre sa résurrection, a marqué la fin de l'autorité de ceux qui avaient le pouvoir sur la terre jusqu'à ce point. Qui étaient-ils? Les fils de Dieu déchus assignés aux nations quand Dieu les avait divorcés. Deutéronome 32, verset 8. Il n'est pas de vos affaires d'être ici. L'implication est que la résurrection et le retour de Jésus au ciel signifiaient que l'autorité des fils de Dieu rebelles était maintenant nulle et invalide. Ils n'avaient plus de domination légitime sur les peuples de ces nations. Le salut n'était pas seulement pour les Israélites, juifs, même si le Messie était un descendant d'Abraham et de David. Jésus était le Messie pour tous et Seigneur légitime sur chaque nation. La résurrection, l'ascension et la venue de l'Esprit a marqué le commencement de la fin des fils de Dieu déchus. Ils avaient perdu leur légitimité. Voici pourquoi le Nouveau Testament associe la résurrection et l'ascension avec la défaite des puissances surnaturelles des ténèbres. Quand Dieu a ressuscité Jésus des morts, Colossiens 2, verset 12, nos péchés n'ont pas seulement été pardonnés, Colossiens 2, versets 13 et 14, mais il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, Colossiens 2, verset 15. Rappelez-vous que les dominations et les autorités sont des termes utilisés par Paul pour les fils de Dieu surnaturels déchus, qui sont devenus les dieux méchants des nations dans la période de l'Ancien Testament. Romains 8, verset 38. 1 Corinthiens 15, verset 24. Éphésiens 1, verset 21. Éphésiens 2, verset 2. Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 6, verset 12. Colossiens 1, verset 13. Les dominations et autorités est l'expression préférée de l'apôtre Paul pour se référer aux puissances vaincues des ténèbres. Après avoir ressuscité des morts, Jésus est allé au ciel et les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. 1 Pierre 3, verset 22. Quand Dieu a ressuscité Jésus et l'a assis à sa droite, Jésus a été placé bien au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Éphésiens 1, versets 20 à 21. Dans l'ère à venir, Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 1 Corinthiens 15, verset 24. Paul aperçut la résurrection et l'ascension comme marquant le commencement de la fin des fils de Dieu déchus qui avaient été assignés aux nations. Il n'est pas surprenant alors qu'il a associé cette pensée avec le salut des païens, les peuples des nations abandonnés. Le Jésus ressuscité et l'Esprit allaient libérer les païens des puissances des ténèbres qui les avaient asservis et abusés. Psaume 82, versets 2 à 5. Rappelez-vous que Dieu avait apparu à Abraham juste après avoir divisé les nations à Babel. Il a dit à Abraham qu'à travers lui et ses descendants, toutes ces nations allaient être bénies un jour. Paul, l'apôtre des païens, connaissait cette promesse très bien. Il a écrit que Jésus a confirmé les promesses faites à Abraham et ses descendants afin que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Romains 15, versets 8 à 9. Paul ne finissait pas là. Il aimait citer l'Ancien Testament pour montrer que Dieu n'avait jamais abandonné les nations des païens. Il les voulait dans sa famille tout le long. Paul savait que le Messie, appelé le « rejeton d'Isaïe » dans l'Ancien Testament, Isaïe était le père du roi David, en qui les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ésaïe 11, verset 10. Paul savait que les nations, abandonnées, allaient un jour adorer le vrai Dieu. Psaume 117, verset 1. Ce programme, une campagne de guerre spirituelle, a été lancé lorsque l'Esprit est arrivé et que 3000 personnes ont cru en Jésus. Acte 2. Ces nouveaux croyants sont retournés dans leur pays d'origine. L'Évangile de Jésus s'est infiltré dans les nations qui étaient sous la domination de puissances surnaturelles hostiles. La Bible se réfère à ceci comme étant la croissance du royaume de Dieu. Alors que les gens se détournaient des dieux corrompus et diaboliques, qui ne pouvaient leur offrir la vie éternelle et devenir membres de la famille de Dieu, le royaume de Dieu grandit. Un royaume diminue, l'autre s'étend. Le royaume de Dieu est alors déjà ainsi dans un certain sens, mais non entièrement dans un autre sens. Pas un instant ne passe sans que Dieu cesse de poursuivre les enfants qu'il aime et qu'il veut. Sa main invisible est partout, et toute circonstance influençant et habilitant ses enfants à faire grandir sa famille. Un jour, le plan de Dieu va atteindre son apogée. Tout va se rattacher comme une boucle. La fin de l'histoire sera celle que son auteur avait en tête depuis le début.